Les Sentinelles Fantômes par Jacques Cézambre. Sir Edward Ferguson, capitaine d'artillerie de Sa Majesté britannique, était tout récemment débarqué à Bombay. À peine avait-il mis le pied à terre qu'il recevait l'ordre d'aller prendre le commandement d'une forteresse de l'autre côté de la péninsule, très loin dans les terres, au fond d'une vallée des Ghâts orientales. Ferguson avait la réputation de posséder un caractère particulièrement intrépide. Mais pour venir servir aux Indes, il était assez mal préparé, toute sa carrière s'étant faite en Afrique, où il avait conquis tous ses grades en se faisant remarquer par sa tranquille bravoure. Il ignorait à peu près complètement l'Asie, aussi accueillit-il avec le plus parfait scepticisme les histoires terribles que ses camarades lui débitèrent pour le documenter sur l'esprit des populations parmi lesquelles il allait vivre. Goguenard comme un dur à cuire, à qui l'on n'en remontre pas, Sir Ferguson traitait tous ses récits de légendes et de contes à dormir debout. Ce fut le sourire sur les lèvres, un peu dédaigneux aussi, qu'il gagna son poste perdu dans une région montagneuse et sauvage. Il se disait que ses camarades étaient des hableurs, soucieux de faire passer l'Inde pour un pays semé de périls et d'embûches, afin de se donner plus de mérite en y servant. Or, quelques jours seulement après son arrivée dans la forteresse, il commençait à déchanter un peu. En effet, ces sentinelles disparaissaient une à une, sans qu'on pût savoir comment. Au moment de la relève, il manquait très souvent un soldat. Les effets militaires étaient retrouvés en tas au pied de la guérite, où le factionnaire avait passé la nuit à l'abri de l'humidité glacée. Ses armes gisaient à terre. On ne relevait aucune trace de meurtre, aucun indice de lutte entre des adversaires quelconques. Les taillis des environs étaient fouillés en tous sens, le pays battu de tous côtés, et jamais on ne pouvait mettre la main sur le cadavre du disparu. Les premiers temps, le capitaine pensa que ces hommes, pris d'invincible nostalgie, décampaient, sans s'expliquer comment, dans une contrée si désolée, ils consentaient à se défaire de leurs fusils. Passe encore de se débarrasser de son uniforme afin de n'être pas reconnu, mais laisser son arme et ses munitions. Sir Ferguson n'y comprenait rien. Il fit raser sur une circonférence de 100 mètres autour de la forteresse les herbes et les bouquets d'arbustes, estimant que ce dégagement permettrait de mieux voir ce qui se passerait la nuit. Pendant une semaine, les soldats furent tranquilles, aucune absence ne se produisit. Puis, brusquement, presque chaque nuit, une sentinelle disparut encore. « Pour peu que ce triste jeu continue, se dit le capitaine, toute la garnison y passera bientôt. » Il fit donc doubler les sentinelles. Cette mesure de précaution parut efficace durant quelques jours. Mais bientôt, en même temps, les deux soldats disparurent à leur tour, sans un cri d'alarme, sans le moindre bruit. La perte devenait importante. 18 soldats avaient ainsi abandonné leurs uniformes sans qu'on pût découvrir leurs traces. Sir Ferguson entra dans une violente colère quand le sous-officier de garde, au rapport, lui apprit qu'une 19e sentinelle manquait à l'appel. C'était trop, mais que faire? Comment supposer que les soldats s'enfuient ainsi à l'étourdi? Comment supposer qu'ils étaient victimes de bêtes féroces? Il existait là un mystère affolant, et le capitaine résolut d'en avoir le cœur net. Il jura de trouver le mot de l'énigme, d'autant plus que ces hommes éprouvaient une répugnance de plus en plus grande à monter la garde. Aux grands mots, les grands remèdes. Il se décida à exercer lui-même une vigilance active. Avant de lutter contre le danger, il fallait au moins le connaître. Pour arriver à cela, sans avertir la garnison, il alla se poster une nuit tout entière au-delà de la zone dénudée et fit le guet. Il ne vit rien. Mais la deuxième nuit, comme il se tapissait dans un buisson, retenant son souffle, épiant toutes les rumeurs de la campagne, le cœur battant, suant l'angoisse, tant l'impressionnait cet ennemi inconnu, redoutable, qu'il sentait tout près, d'instinct, il entendit un frôlement léger, à peine distinct, sur le sol et dressa l'oreille. À 2 pas de lui, 4 hommes, les pieds nus, le corps vêtu d'un pagne, rampaient en cédant des coudes et des genoux tapis comme des fauves qui vont bondir sur un gibier convoité. Le capitaine crispait la main sur son revolver, mais il voulait voir ce que feraient ces rôdeurs silencieux, et avant d'agir, il attendit. La sentinelle au loin dressait sa silhouette noire sur une éminence qui dominait la forteresse. À chaque instant, le soldat tournait la tête de côté et d'autre, dans un mouvement de crainte indicible. Hanté par le souvenir des mystérieuses disparitions de ses camarades. Il devait, par intuition, sentit rôder sournoisement la mort dans la demi-obscurité qui enveloppait tout, et il cherchait à comprendre d'où elle arriverait, terrible, foudroyante. À plat ventre, toujours muet, les hindous continuaient leur route, se rapprochaient peu à peu du soldat, à qui leur présence devinée dans cette solitude faisait perdre la tête. Sir Ferguson ne doutait plus maintenant. Ces quatre ombres qui se traînaient en se dissimulant étaient bien les meurtriers de ces hommes disparus. Il se mit à les suivre en glissant sur le sol, de façon à être tout près d'eux quand il faudrait intervenir. Les assassins n'étaient plus qu'à 10 mètres du soldat, et celui-ci ne pouvait les voir dans son affolement. Il était temps d'agir. Le capitaine se dressa d'un bond et fit feu sur les quatre hindous. Il avait bien visé, car 3 hommes roulèrent sur le sol. Le 4e, ayant réussi à se relever, fuyait quand il l'abattit d'une balle en lui cassant la jambe. Au bruit des détonations, aux appels du capitaine, la garnison fut sur pied. Le factionnaire, plus mort que vif, tremblait comme une feuille, à l'idée que, sans la vigilance audacieuse du capitaine, il eût subi le même sort que les sentinelles précédentes. 3 des assassins avaient été foudroyés presque à bout portant. On transporta le blessé dans la forteresse. Le capitaine ne voulait pas le faire passer par les armes, espérant tirer de lui quelques éclaircissements. Tout d'abord, il apprit comment ces hommes étaient assassinés. Au poignet d'un des hindous morts, on trouva attaché un foulard de soie, dont un coin noué contenait une pièce de monnaie qui permettait de le lancer. Il s'expliqua comment ces sentinelles pouvaient disparaître sans laisser de traces de sang. Elles étaient tout simplement étranglées. Les thugs, les étrangleurs fanatiques, les sectateurs de la déesse Kali. Et Ferguson se souvint d'histoires terribles entendues autrefois. Il n'y avait point attaché grande créance, et voici qu'à ses yeux décilés, la vérité se dévoilait dans toute son horreur. Les thugs sont des assassins pieux, qui tuent uniquement dans l'espoir d'envoyer directement au Nirvana le plus grand nombre d'âmes possible. Chez eux, l'horreur du sang est de tradition. Il est bon de tuer, pour le plus grand bien des humains, mais il est mal d'égorger une victime, de faire couler son sang. Malheur au fidèle qui souillera la terre d'une goutte de sang. Sur lui pèsera éternellement l'anathème de toute la secte et la colère divine. Quand le blessé put être interrogé, il se refusa tout d'abord à donner la moindre indication sur ses complices. À toutes les questions, il répondait que la mort ne l'effrayait point, mais demandait la grâce dernière de vivre jusqu'à ce que ses blessures fussent cicatrisées. Après cela, on pourrait le pendre tout à loisir. Actuellement, son sang coulait, et il ne se trouvait pas dans les conditions requises pour mourir en odeur de sainteté. Les thugs se sont placés sous la protection de la déesse Kali, qui symbolise la destruction dans le monde, et les partisans de cette secte, trouvant sans doute que la tâche de la déesse ne se fait pas suffisamment sentir ici-bas, viennent collaborer à ses efforts. Les fidèles se répartissent la besogne de la façon suivante. Certains imaginent la ruse qui doit triompher des malheureux désignés, d'autres l'exécutent, et enfin, les derniers sont chargés d'enterrer ceux qui sont tombés sous les foulards meurtriers. Les étrangleurs ont la mission la plus délicate. Quant aux fossoyeurs, ils sont tenus de faire les sépultures dans le plus grand secret, personne ne devant jamais connaître le nombre des assassinats perpétrés par cette piété aveugle et monstrueuse. Sir Ferguson mit à profit la terreur de son captif. Il le menaça de le fusiller sur le champ s'il ne dévoilait pas la cachette des sinistres étrangleurs, ses complices. Par crainte de perdre sa place en paradis, l'hindou céda, et le capitaine sut bientôt que les assassins se donnaient rendez-vous tous les matins dans un bois voisin. C'est là que les prières en commun, une fois récitées, se concertaient les crimes des apôtres du foulard. Dès le lendemain, avec une poignée d'hommes résolus, le capitaine cerna le bois et une battue en règle eut lieu. Pendant 1 heure, il fut impossible de trouver le moindre thug. Mais comme l'officier allait donner l'ordre de se retirer, il aperçut, en levant les yeux, un hindou perché sur un arbre et qui se dissimulait de son mieux. D'un coup de revolver, Ferguson l'abattit à ses pieds et la chasse aux étrangleurs commença. On ne fit grâce à aucun d'entre eux. Les soldats fusillèrent sans relâche les meurtriers de leurs camarades et ces meurtriers ne cherchaient même pas à se défendre. Les thugs affiliés à cette bande étaient au plus 50, venus des hameaux voisins. Ce massacre nécessaire pour redonner quelque sécurité au pays eut les meilleurs résultats. Depuis, les voyageurs ne disparaissent plus mystérieusement en traversant les vallées des Ghâts orientales. Dans la garnison de la forteresse, les soldats ne tremblent plus en voyant venir leur tour de faction. Mais, malgré des recherches assidues, il a été tout à fait impossible de découvrir les sépultures secrètes où sont enfuies les victimes multiples tombées sous le foulard des thugs. Quant au capitaine d'artillerie venu d'Europe avec des idées un peu préconçues sur l'esprit des populations de l'Inde, il a cessé d'être sceptique depuis cette aventure. Il ne songe jamais sans frémir à la horde immonde qu'il a réussi à exterminer aux environs de sa petite garnison. Et chaque fois qu'il entend dire par des camarades que les désertions se multiplient dans les rangs des troupes anglaises aux Indes, on a beau affirmer officiellement que les fidèles de la déesse Kali se font rares, il n'est pas loin de croire que les thugs sont passés par là. Le plus pittoresque de l'histoire, conclut le jeune lieutenant de l'Indian Police qui me rapporta ce récit, c'est qu'elle est vraie de bout en bout. Il y a encore des étrangleurs au Bengale, il y en aura longtemps. Ainsi s'achève Les Sentinelles Fantômes par Jacques Cézambre.